Merci de votre fidélité à Radio Mars et en particulier à Mars Africa tous les dimanches désormais entre 11h et midi ici à Casablanca, entre 10h et 11h au GMT. Première escale à Dakar au Sénégal avec Bakary Cissé. Bonjour Bakary.
Bonjour.
Alors je pense que la bombe de la semaine, elle provient de Dakar avec l'éviction d'Aliou Cissé après près de 9 années de bons loyaux services à la tête des Lions de la Teranga. Tenant et aboutissant de cette décision ou prise par le ministère de tutelle.
Malheureusement, Aliou Cissé part sur la pointe du pied de l'équipe nationale du Sénégal. Une décision inattendue. Effectivement, elle est tombée ce mardi par le biais d'une correspondance adressée à la Fédération sénégalaise de football par la tutelle. Donc, ça a été une onde de choc parce que personne ne s'attendait à l'éviction de Aliou Cissé en ce moment, parce que quand même, il ne faut pas oublier qu'il a fait un travail de titan à la tête de cette équipe nationale du Sénégal. C'est vrai que qu'à un moment donné, le jeu produit plutôt par son équipe a été décrié par les observateurs avertis de la tanière. Et je pense aussi qu'il y a la bronca des supporters sénégalais qui ne comprenaient pas le système de jeu avec lequel Aliou Cissé a essayé de produire ces temps-ci, parce que le 3-5-2 nous a pas valu de satisfaction, et aussi son contrat est arrivé à terme le 31 août dernier. Certainement, ce sont tous ces faits qui ont poussé la tutelle à mettre fin à la collaboration d'Aliou Cissé. Parce qu'effectivement, chez nous, à desport.sn, on a annoncé la couleur depuis le 20 septembre en disant que la Fédération sénégalaise de football a adressé une correspondance à la tutelle pour une éventuelle prolongation d'au moins un an du contrat d'Aliou Cissé. Mais le ministère des Sports a ignoré, n'est-ce pas, cette correspondance. Donc les prémices d'un divorce étaient là depuis belle lurette. Aussi, comme je l'ai dit, le Sénégal est resté pendant 5 matchs en ne marquant qu'un seul but. Et les 2 derniers matchs du Sénégal à domicile ont été soldés par un match nul. Donc, l'un dans l'autre, il faut dire quand même qu'il y avait beaucoup de griefs contre Aliou Cissé. Mais l'enderneau du football sénégalais était surpris de cette décision, d'autant plus qu'effectivement, elle intervient à la veille de 2 confrontations des actes 3 et 4 des éliminatoires de la CAN 2025 que le Sénégal jouera contre le Malawi le 11 octobre à Dakar et le 15 octobre à Lilongwe. Donc cette décision était incompréhensible, mais elle est prise quand même. Quoi qu'il en soit, il faut respecter la décision, même si nous, observateurs que nous sommes, nous avons décrié la façon et la démarche de la tutelle.
Bon, je rappelle que certains pourraient se poser la question, pourquoi c'est la tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui décide de mettre un terme à la collaboration entre Aliou Cissé et la Fédération sénégalaise de football. Sur notre continent, très souvent, c'est le ministère qui paye le salaire. Et donc, c'est le ministère qui a un droit de vie ou de mort sur le sélectionneur. Alors justement, on se dirige pour ces doubles confrontations contre le Malawi vers un duo d'intérimaires. Quid de ces noms et quid de la liste qui a été, je dirais, fabriquée par Aliou Cissé, puis peut-être communiqué via les réseaux sociaux de la Fédération sénégalaise, loin des conférences de presse habituelles.
Oui, il faut dire que c'est Pape Thiaw qui a été promu sélectionneur adjoint de Aliou Cissé à l'issue au départ de Régis Bogard, qui était l'entraîneur adjoint attitré de l'équipe du Sénégal, le compagnon de guerre d'Aliou Cissé. Il a démissionné de son poste récemment. Et Pape Thiaw, ancien international de la génération 2002, qui est champion du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations que le Sénégal a gagné récemment en Algérie. Effectivement, c'est lui qui va conduire l'équipe du Sénégal avec Teddy Pellerin. Teddy Pellerin, il faut dire que jusqu'au mois d'août dernier, il était le préparateur physique de l'équipe du Sénégal, mais au départ de après le départ de Régis Bogart, Thierry Pellerin a été promu comme deuxième entraîneur adjoint du Sénégal. Effectivement, c'est ce duo-là qui va conduire l'équipe du Sénégal pour les deux prochaines journées. Mais on pense que c'est le même duo qui continuera jusqu'à la fin des éliminatoires. Maintenant, par rapport aux listes, il faut dire qu'ils sont restés dans la continuité. Il y avait 27 joueurs qui ont été choisis. De ces 27 joueurs, on notera l'absence de Edouard Mendy, le portier inamovible de l'équipe nationale du Sénégal, qui souffre d'une entorse à la cheville et qui serait éloigné des pelouses pendant 4 semaines. Effectivement, il a été remplacé par Mori Diaw, qui est un habitué de la tanière, mais qui, récemment, est en bisbille à Clermont. Il ne veut pas rester à Clermont parce qu'il avait eu des velléités de départ. Malheureusement, il est aujourd'hui quatrième portier. Effectivement, le reste ne change pas. Mais on va noter aussi le retour de Boulaye Dia, le canonnier de l'équipe nationale du Sénégal, qui a été absent à la dernière Coupe d'Afrique des Nations pour cause de blessure. Donc, Pape Thiaw n'a pas essayé de réinventer la roue ou de perturber le schéma habituel. Oui, Aliou Cissé avait concocté la liste et cette liste-là est respectée et c'est la liste d'Aliou Cissé qui sera maintenue pour les deux prochaines journées douanières.
Et pour terminer, concernant ce dossier des Lions de la Teranga, qui pour succéder officiellement à Aliou Cissé, est-ce qu'il n'y a pas une piste qui mènerait par exemple vers Hervé Renard, sans contrat, avec des affinités avec le Sénégal, il a une résidence là-bas, ou bien on se dirigerait vers une piste locale ou un autre outsider qui viendrait peut-être coiffer tout ce beau monde au poteau. Quelles sont les spéculations selon la presse sénégalaise?
Il y a des noms qui circulent, il y a aussi des CV qui sont déposés. Il faut dire Hervé Renard, effectivement, pourrait être une option. Il y a Habib Bey qui pourrait aussi être une option, tout comme Omar Daf. Donc, pour l'instant, les autorités et fédérales sont en train de ruminer leur colère, pour ne pas dire sont en train d'observer. Et donc, moi, je pense qu'il faut d'abord attendre la fin de ces troisième et quatrième journées pour voir la suite à donner, parce que d'abord, il y a le comportement d'ensemble de Pape Thiaw et de Teddy Pellerin qu'il faudra bien scruter. Il y a le comportement d'ensemble de l'équipe nationale du Sénégal, des Lions du Sénégal qui vont jouer pour la première fois sans Aliou Cissé. Donc, l'ombre de Aliou Cissé va planer sur ces deux matchs-là. À mon avis, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que le Sénégal est arrivé à un stade où n'importe quel entraîneur ne doit pas le prendre. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas brûler les étapes. À mon avis, le plus important aujourd'hui, c'est les deux matchs-là. Oui, des noms circulent, comme je l'ai dit. Il y a Hervé Renard, il y a Habib Bey, il y a Omar Daf. Il y a d'autres CV. La fédération, hier, sur desport.sn, on nous fait comprendre qu'effectivement, il y a des CV qui sont en train d'être déposés au niveau de la fédération sénégalaise de football. Est-ce que la FSF va faire un appel à candidature? On ne sait pas. Est-ce que la FSF va essayer de mettre le curseur sur un entraîneur pour essayer de le convaincre? On donne notre langue au chat.
Et on suivra avec beaucoup d'intérêt l'ombre d'Aliou Cissé qui planera sur les Lions de la Teranga et ce feuilleton qui ne fait que commencer. Merci beaucoup Bakary Cissé pour toutes ces explications. Il est 11h11 et on se donne rendez-vous très prochainement. On va bien évidemment continuer ce tour d'Afrique, on voyagera un peu partout. L'idée c'est d'essayer de rapprocher nos auditeurs des listes des différentes sélections nationales avec depuis Libreville, Rodrigue Bekele, bonjour. Alors Rodrigue, on va parler de la liste de la sélection gabonaise qui va devoir disputer une double confrontation face au Lesotho. L'objectif, c'est de prendre les 6 points, de se rapprocher davantage vers la CAN.
Se qualifier en attendant que le Maroc s'impose face à la République centrafricaine. Je pense que si on réussit à s'imposer face à ce match-là, le match qui va se jouer le 11 et le 15, on aura déjà presque un pied au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. Thierry Mouyouma et son équipe sont conscients de cela. Nous avons été battus en match d'ouverture par le Maroc. Nous avons essayé de nous rattraper. Les Panthères du Gabon se sont rattrapés lors de la deuxième journée, la troisième et la quatrième journée. Ce sont quand même des journées qui vont déterminer, donner une idée des qualifiés pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique.
Alors justement, est-ce que la liste a été publiée? Quelles sont les nouveautés par rapport à la précédente liste?
Non, il n'y a pas de nouveauté. C'est les mêmes joueurs que nous connaissons, juste quelques changements seulement. Ce sont des joueurs qui sont connus. On voit un retour de Nubi Fotso, le gardien de but, en lieu et place à Joël Ella. On voit également le retour de Alevina, qui n'avait plus porté les couleurs des Panthères du Gabon depuis pratiquement 3 à 4 matchs déjà, qui était blessé. On voit également le retour de Lufilo également, qui ne faisait plus partie de la liste de Thierry Mouyouma. Maintenant, le grand absent, c'est Bruno Ekole Manga, qui aujourd'hui passe le moment un peu difficile parce que Bruno Ekole Manga n'arrive toujours pas à se trouver un club. Et l'objectif du coach aujourd'hui, c'est de faire avec les gens qui ont au moins d'abord un club et avoir un temps de jeu au sein de ce club-là. Il faut rappeler quand même que notre équipe, l'ensemble de ces joueurs passent plus ou moins les moments difficiles. Ils sont un peu fantômes. Ils sont un peu fantômes dans les différents clubs. Si l'un n'a pas de club, c'est l'un qui ne joue peut-être pas ou bien qui n'a pas de temps de jeu. C'est pour dire que c'est une difficulté pour Thierry Mouyouma, qui joue d'abord les éliminatoires de la Coupe du Monde, les éliminatoires également de la Coupe d'Afrique, avec un effectif qui n'a pratiquement pas de temps de jeu et dont les joueurs ont du mal à trouver des clubs à la hauteur et à la dimension des ambitions de l'équipe.
Pour terminer, CHAN 2025, le Gabon renonce à disputer les qualifs.
Oui, c'est une suite logique. La Fédération gabonaise de football a jugé nécessaire, étant donné qu'il n'y a pas de championnat au Gabon, et sachant très bien que le principe pour jouer le CHAN, ce sont les joueurs qui évoluent sur le plan local, pas de championnat, pas de participation de notre pays au CHAN.
Alors, justement, cette situation, Rodrigue, elle est un peu ubuesque. Comment se fait-il qu'un pays comme le Gabon n'a pas de championnat national depuis 2 ans?
On va me dire plus de deux ans, parce qu'on ne peut pas compter un championnat. Le championnat a démarré, le championnat s'est arrêté, c'est plus de 2 ans. En fait, je le disais une fois sur vos antennes que cette situation est tellement délicate par rapport aux joueurs qui veulent jouer. Le Gabon ne manque pas de talent, c'est que les autorités sportives, les autorités fédérales, mais également l'État n'arrivent pas à mettre les mécanismes pouvant permettre à une nette progression de notre championnat, du football et du sport en général. Je vous le dis, aucun sport ne se joue, aucun sport ne se pratique au Gabon depuis pratiquement plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans. On fait juste du pilotage à vue, on fait juste l'essentiel, c'est de participer. C'est comme ça. Tout ceci au vu, au su des autorités. Les autorités n'arrivent pas à prendre les mesures qu'il faut. Et pourtant, il y a des assises, il y a des séminaires, il y a des forums qui s'organisent sur le football. Mais personne n'arrive à prendre la bonne et la meilleure décision pour que les joueurs aujourd'hui, qui vivent de ces métiers, qui sont aujourd'hui découragés et sont obligés de faire dans les petits métiers pour nourrir leur petite famille, je pense que plus ou moins compliqué, très difficile la situation.
Situation difficile que la presse au Gabon dénonce, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de réaction de la part des autorités de tutelle, mais vivement que le sport retrouve des couleurs dans ce pays ami et frère. Merci beaucoup Rodrigue Bécalé, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le point sur ces 2 matchs de la sélection gabonaise contre le Lesotho. Ça concerne le groupe de l'équipe du Maroc qui aura, lui, 2 matchs officiels à Oujda contre la République centrafricaine. On va continuer ce voyage un peu partout sur notre continent avec la Côte d'Ivoire. La liste a été donnée la semaine dernière, mais il y a eu quand même des quelques modifications par rapport à la liste. Bonjour Elisabeth Goli.
Bonjour Amin.
Alors on va commencer par cette info avec Ousmane Diomandé qui déclare forfait pour les 2 prochains matchs des éléphants de Côte d'Ivoire contre la Sierra Leone. Et c'est une grosse surprise dans la liste d'Emers Faé puisqu'il a été touché à la 32e minute lors d'un match de Ligue des Champions face au PSV Eindhoven. Ça oblige Emers Faé à pallier au plus pressé.
Oui, effectivement. Ça oblige... bonjour Amine, bonjour chers
bonjour
auditeurs de la Radio Mass.
C'est toujours un plaisir d'avoir Elisabeth avec nous.
C'est un plaisir de vous retrouver. Effectivement, c'est un gros souci quand même pour le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire de se voir confronté encore une fois à des forfaits auxquels il ne s'y attendait pas. Mais comme il faut aussi le retenir, c'est que la Côte d'Ivoire regorge quand même d'importants et de nombreux joueurs de qualité hors du pays et même au niveau national. Mais comme ils ont décidé de mettre plus d'accent sur le volet international, effectivement, fallait un peu trouver un remplaçant qui est de taille, qui fait vraiment l'affaire à la personne de cette équipe, qui va remplacer, qui va jouer la seconde carte. Et comme il faut le retenir aussi en Côte d'Ivoire, quand même, comme je le disais, il y a toujours de bons joueurs et les remplaçants font toujours de bonnes choses. Donc, on attend de lui, effectivement, qu'il assure comme l'avait fait son nom échappe un peu lors de la première et deuxième journée qui avait marqué les différents buts. Donc, on espère qu'il sera vraiment à la hauteur des attentes de tous les Ivoiriens.
Alors, justement, dans cette équipe de Côte d'Ivoire, il y a un certain Sébastien Allaire qui, pour l'instant, a des débuts difficiles en Espagne à Leganés. Pour l'instant, il n'est pas, je dirais, efficace et son club plafonne. Est-ce que c'est pas un souci de plus pour Emers Faye? Est-ce que c'est pas un motif d'inquiétude pour le public ivoirien?
Un motif d'inquiétude, oui et non. Oui, parce que on attendait vraiment d'avoir un Sébastien Allaire à 100% de sa forme après avoir quitté son club allemand. Mais malheureusement, ce n'est vraiment pas le cas. Donc, c'est inquiétant pour la Côte d'Ivoire. Mais non, parce que Sébastien Allaire, c'est toujours la surprise. On l'a vu lors de la CAN en 2023. Où il n'était pas en forme, on n'attendait vraiment pas la performance qu'il a eue, si bien qu'il n'était même pas vraiment au premier plan même des classements du sélectionneur et autres. Mais il a créé toujours la surprise et on se dit que c'est ce Sébastien Allaire qui viendra pendant les 16 éliminatoires, il fera toujours la surprise. Et vous savez, les meilleurs joueurs, comme on le dit, le bon vin, il est... Bon, j'oublie un peu le proverbe, j'oublie comment le formuler, mais le bon vin, il est toujours prêt et autre à être bu. Donc, on se dit que Sébastien Allaire aura vraiment les moyens nécessaires pour faire la surprise et créer la surprise lors de ces éliminatoires s'il venait à être classé par le sélectionneur Faye Emers.
Et ce sera à suivre, bien évidemment. En direct sur Radio Mars avec Elisabeth dimanche prochain, on fera le point sur la première confrontation face à la Sierra Leone. C'est un duel d'Afrique de l'Ouest, donc c'est quasiment un derby. Merci beaucoup Elisabeth. On va se retourner du côté de Boyko au Bénin. Dans quelques instants, nous aurons Élisée Onkpatine pour parler de la double confrontation. Elle est déjà décisive pour la sélection béninoise face au Rwanda. Bonjour Élisée. Alors justement, on va patienter un tout petit peu le temps que la liaison soit effectuée. Bonjour Élisée. Alors, on va aller au Mali. Rissa Nyono, bonjour.
Bonjour Amine, bonjour à toutes et à tous.
Alors justement, on va parler de la liste pour la double confrontation face à la Guinée-Bissau. Bonjour Rissa. Alors justement.
Bonjour. Donc Amine, donc pour l'instant, hein, nous sommes à 39 minutes de la publication de cette liste parce que c'est aujourd'hui que le Mali va dévoiler sa liste. Le sélectionneur Tom Saint-Fit est arrivé aux environs de 2h du matin ici à Bamako via la Royal Air Maroc également par lequel il est passé en provenance de la Belgique. Donc c'est aujourd'hui que les Maliens vont connaître la liste des 23, 4 ou 5 joueurs qui seront appelés par le sélectionneur Tom Saint-Fit. En tout cas, dans cette liste, d'après nos recherches et nos informations que nous avons pu avoir, certains joueurs seront de retour, dont notamment Amadou Aïdara de Leipzig, El Bilal Touré de Stuttgart, ou encore l'attaquant d'Or de l'Est, sauf s'ils sont blessés. C'est au niveau de la défense où il y aura des absences, parce que le défenseur de Braga, Sikou Nyakate, nous avons appris qu'il devrait être absent de la liste, comme notamment Modibo Sagna de Montpellier, Kiki Kouyaté, qui était un des prétendants également de la défense, s'est fait opérer au genou et sera absent pour 2 mois. Et voilà, donc c'est là-bas où les Aigles seront encore faibles face à cette formation bissau-guinéenne qui sera forcée par un certain Beto, joueur portugais évoluant du côté d'Everton. En tout cas, La liste est très attendue ici parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont sorties, parce que également il faut reconnaître hein, le vestiaire entre guillemets passe à un moment vraiment difficile où des incompréhensions entre les appelés, les non appelés continuent de susciter des interrogations ici à Bamako, dans la presse et sur les réseaux sociaux.
Et pourtant, le Mali doit se réjouir. Il a un potentiel de jeunes joueurs et même de jeunes joueurs locaux, puisque on rappellera, c'est historique, le Mali va avoir un club en phase de groupe de la Ligue des Champions. Quelles sont les attentes pour le tirage au sort de demain ?
Exactement. Donc, c'est la même. C'est surtout les adversaires de Djoliba qui seront vraiment scrutés ici. Et ils sont attendus, hein. Donc les uns et les autres sont impatients de savoir qui sera les adversaires de Djoliba, parce que là, nous-mêmes, au niveau de la presse, on est heureux parce que nous allons avoir la chance de recevoir 6 matchs ici à Bamako, 3 en Coupe de la Confédération et 3 en Ligue des Champions, ce qui n'était pas arrivé il y a plusieurs années, parce qu'il faut reconnaître que depuis l'ancienne version et les années 1964-65, où le stade avait également jouer les finales et l'AS Real pareil. Mais cette fois-ci, c'est la nouvelle formule. Aucune formation malienne n'était pas arrivée à franchir cette étape. Le Djoliba l'a fait. Donc, nous attendons si ce sera des adversaires du Maroc ou même de la Tunisie ou de la Tanzanie. Donc, on attend avec beaucoup d'impatience. En tout cas, le Djoliba est dans le chapeau 4 parce que c'est la première fois qu'il est là et il va devoir se prendre des adversaires comme notamment, le TP se retrouve dans le chapeau 1, le TP c'est pas le TP d'avant. Voilà, ce sont des clubs comme ça que le Djoliba veut vraiment affronter, et dont notamment les éviter. Et donc les Mamelodi Sundowns également s'y retrouver avec Al-Ahly du Caire. Donc du côté du Stade Malien de Bamako, là c'était déjà un tenant, c'est un vainqueur de la compétition, c'est vrai, ils sont dans le chapeau 2, mais pour eux, il n'y a pas beaucoup de choses à craindre, parce qu'ils estiment que, à part les adversaires du chapeau 1, qu'ils vont forcément affronter dans les autres chapeaux pour le Stade Malien, c'est carré, entre guillemets, donc pas question d'avoir peur. Donc en tout cas, les Maliens quand même attendent avec beaucoup d'impatience demain, ce tirage au sort qui débutera par la Coupe de la Confédération ainsi que la Ligue des Champions.
Merci beaucoup Idrissa Nyono pour toutes ces explications. Rendez-vous dimanche prochain pour faire le point sur les éliminatoires de la CAN 2025 et ses doubles confrontations face à la Guinée-Bissau. Après une page de pub, nous continuerons notre tour d'Afrique sur Mars Africa.
علاش دابا الوقود وين بروتيكت بلس ديال وينكسو هو احسن ما كاين في السوق؟ باختصار مع الوقود وين بروتيكت بلس الموتور كيبقى ديما نقي محمي واكثر فعاليه كيستهلك قل وكيدوم اكثر وهذا الشيء كله بنفس ثمن الوقود العادي داكشي علاش الوقود وين بروتيكت بلس اللي كاين في ستاسيونات وينكسو مخير بزاف لا مقارنه مع الوقود اللي كيكون زايد في الثمن اللي كيتسمى الاكسترا بلس وداكشي وما تنساش راه ستاسيونات ديال وينكسو كاينين في المغرب كامل وينكسو شركة مغربية بالجودة والرخاء تهلا فيك وفيا
مباريات الجولة الخامسة من البطولة الوطنية الاحترافية القسم الوطني الأول مباشرة على راديو مارس اتحاد طنجة غادي يستقبل الجيش الملكي نهار الأحد مع السادين العشية بملعب ثانية ترمل بتطوان
هادي ماتش مباشرة على راديو مارس
Et 11h26 minutes sur Radio Mars, Mars Africa se poursuit. La prochaine escale, c'est à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour parler avec Michel Tobo de la double confrontation décisive déjà pour l'équipe congolaise face à la Tanzanie. Quid de la liste de Sébastien De Sabre, nouveautés, joueurs exclus, joueurs rappelés. Nous aurons de plus amples détails tout de suite avec Michel Tobo. Bonjour Michel.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Merci encore de me donner ce petit moment pour réagir par rapport à l'actualité sportive en République démocratique du Congo. Voilà, on va commencer par voilà les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, hein, justement avec voilà les deux pays démocratiques du Congo qui vont jouer deux rencontres cruciales, voilà, disons-le comme ça, parce que en cas de deux victoires, les Léopards peuvent directement composter leur billet pour la prochaine Coupe d'Afrique de Nations. Donc il faudra battre la Tanzanie à deux reprises, voilà, en commençant par le jeudi 10 octobre ici à Kinshasa et le mardi 15 octobre à Dar es Salaam. Sébastien Desabre, voilà, n'a pas dérogé à sa règle, hein. Il n'y a pas eu énormément de changements, voilà. À part qu'il y a une blessure, hein, Axel Tuanzebe, le joueur d'Ipswich Town en Angleterre, ne sera pas là. Il s'est blessé la semaine dernière. Il a été remplacé par un jeune joueur, Peter Kyoso, qui joue également en Angleterre à Oxford United en deuxième division. Il va connaître sa toute première sélection donc avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Mais il faut signaler également, hein, les retours plutôt, voilà, de William Baliukwisha, qui n'a plus été sélectionné depuis presque une année maintenant, et de Silas Wamangituka qui n'a pas joué les deux récents matchs. Donc voilà, c'est une liste hormis, hein, les changements que je vous ai donnés, il n'y a pas énormément de changements, c'est la liste traditionnelle que Sébastien Desabre nous propose depuis quelques temps maintenant, avec Sanchez Mbemba, voilà, qui ne joue plus à Marseille avec des problèmes administratifs, hein, mais bon, il est là, c'est le capitaine de l'équipe. On lui fait confiance, c'est un grand professionnel et donc il sera là pour apporter son expérience à ses coéquipiers sur le terrain. Donc comme je le disais tantôt, les Léopards peuvent en tout cas composter leur billet dès les 15 août, les 15 octobre plutôt, à 20h, voilà, ça sera, voilà, non, 22h plutôt, hein, ça sera l'heure du coup de sifflet final de cette explication entre les TFA Stars et les Léopards de la République démocratique du Congo. Voilà, mais il faudra d'abord commencer par faire un très bon match ici sur place à Kinshasa pour aller justement négocier un très bon résultat au match retour. On suivra bien évidemment cette double confrontation face aux TFA Stars et la Tanzanie. On vous rendra compte bien évidemment la semaine prochaine. L'autre actualité, c'est le retour du championnat national. Voilà, on y attendait depuis deux mois maintenant, hein. Voilà, le championnat national a repris ce week-end, avec déjà quelques surprises, hein, des champions en titre. La formation du Tout-Puissant Mazembe a été donnée en échec par un promu, voilà. L'AS Malolé de Kananga, un but partout, hein, et la formation visiteuse s'est même permise, hein, d'ouvrir le score à Lubumbashi au stade de Tout-Puissant Mazembe. Mazembe a bataillé dur pour revenir à un but partout dans les toutes dernières minutes de cette rencontre. Donc voilà, c'est une alerte pour les champions en titre, hein, le Kobo de Lubumbashi, qui vont devoir justement défendre leur titre en faisant énormément d'attention. L'autre surprise, c'est la défaite, surprise également, comme je le dis, du Dareka Bamonté Mapembe, qui a perdu 3-0 à Kinshasa ici face à la formation de Céleste. Monté Mapembe qui a eu énormément du mal la saison dernière déjà, hein, l'équipe a failli être reléguée, voilà, mais bon, l'équipe s'est préparée, mais visiblement la mayonnaise n'a pas encore pris, hein. On attendra, ce n'est que la première journée, il ne faudra pas dramatiser là-dessus également. Il y a Mané Maignan également, voilà, Mané Maignan qualifié pour la phase de coupe de la Ligue africaine de champions. Mané Maignan qui s'est imposé tranquillement 2-0, hein, donc face à la formation de New Jack de Kinshasa. L'ASV Club, quant à elle, qui a changé d'entraîneur, Abdeslam Ouadou n'est plus là depuis le match retour, le match aller plutôt, face à Stellenbosch lors du deuxième tour de la Coupe de la Confédération. Il a été remplacé il y a quelques jours seulement, hein, par Youssoufa Dabo, un entraîneur sénégalais. Il vient de la formation du Hazard, mais il a passé ce bon bout de temps au niveau de son pays également. Il a entraîné plusieurs clubs, Tenguette, l'Aïsta d'Ambourg ou encore le Jaraf, hein. Donc il a également entraîné, hein, la sélection de moins de 20 ans avec lesquels, en 2019, avec lesquels ils sont allés jusque en finale de la Coupe d'Afrique de l'aspect de la catégorie et puis justement en Coupe du Monde qui s'est déroulée cette année-là. Donc voilà, Vinclub également va jouer son match donc ce dimanche. On attendra et on vous rendra compte bien évidemment des péripéties de cette première journée du championnat national congolais lors de nos prochaines interventions. Voilà, Amine Birouk, merci infiniment.
Merci beaucoup.
De nous avoir
c'était complet comme d'habitude, cher ami.
On reviendra bien évidemment sur l'actualité des Léopards la semaine prochaine pour vous faire le compte-rendu des deux prochaines rencontres de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Merci à vous.
Et ça commencera pour les Léopards jeudi prochain, alors que c'est samedi que la Guinée disputera la première de ces deux confrontations face à l'Éthiopie. Nous en parlons dans quelques instants avec Chérif Alliot. Chérif Alliot qui sera des nôtres pour pouvoir bien évidemment nous donner les grandes lignes de la liste, la première liste du sélectionneur, du nouveau sélectionneur ou de l'ex-nouveau sélectionneur de la Guinée, Michel Dussuyer. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Alors justement, est-ce que Chérif est à l'autre bout du fil? Vous avez indiqué qu'il était prêt à intervenir. Chérif Alliot, bonjour. Bonjour Chérif.
Bonjour.
Alors j'espère que tu nous écoutes ou tu nous reçois 5 sur 5, cher ami.
Oui, Amine, bonjour. Oui, tout va bien. Je vous reçois 5 sur 5.
Alors, on va parler de la première liste concoctée par Michel Dussuyer. Quelques surprises, notamment la mise à l'écart d'Ilaïch Moriba. Quels sont les changements principaux intervenus par rapport à la précédente?
Ah oui, vous l'avez dit, hein, Amine. On a cette liste-là, hein, des pieds fermes, hein, la première de Michel Dussuyer, qui est désormais donc, le sélectionneur du Sili de Guinée. Une liste de 23 joueurs donc sortis par le technicien français pour les deux matchs à venir du Sud de Guinée, hein, contre l'équipe de l'Éthiopie, les 12 et 15 du côté de la Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, au stade de Bimpé. Ben, cette liste, c'est vrai, il y a eu quelques petits changements, pas grand changement tout de même. Vous avez d'abord évoqué, hein, l'absence de, mais c'est vrai, de Moriba qui ne sera pas là pour ces deux prochains matchs. Il a été donc mis à l'écart par le sélectionneur, hein, parce que bon, on estime que Moriba Kourouma, ces derniers temps, vraiment ne donne pas assez quand il est en sélection. Ben voilà, hein, c'est une sanction, entre guillemets, pour le jeune milieu de terrain du Sud de Guinée. Il y a aussi l'absence d'Ibrahim Koné, hein, qui était jusque-là le numéro 1 dans les perches du Sud de Guinée. Ben lui aussi a été écarté, hein, par Michel Dussuyer. Équipe le remplacer, c'est bien sûr Moussa Camara Pimpin, l'ancien gardien du Oroya AC, qui joue désormais du côté de la Tanzanie avec le Simba SC, qui donc aura la lourde charge de garder les perches du Sud de Guinée. Il est désormais le numéro 1 à ce poste-là. Et voilà, entre autres, hein, grande absence de cette liste du Sud, même si encore une fois, on n'a pas, bien sûr, hein, le capitaine emblématique, hein, Nabi Keïta, qui n'a pas été appelé, tout comme Amadou Diawara, qui ne sera pas là également. Ben voilà, du Sud, on va donc faire avec une liste de 23 joueurs, avec le retour, bien sûr, de Chirou Guirassy, qui brille en ce moment avec Dortmund du côté de l'Europe. Et on rappelle que le Sili pour l'instant est dernier de son groupe avec 0 point au compteur. Et c'est donc deux matchs assez cruciaux qui attendent donc le Sili de Guinée, qui devra se gagner ces deux matchs et se relancer dans son groupe.
Et ce sera sans Malik Fofana, qui échappe définitivement à la sélection guinéenne. Le choix n'a pas a été fait par rapport à l'équipe de France.
Ah oui,
plutôt par rapport à la Belgique.
Beaucoup de...
Parce qu'il est puisque le pays d'accueil, voilà, c'est la Belgique. Donc c'est par rapport à la Belgique.
Bien évidemment. Ben justement, vous avez tout résumé, hein, mon cher Amine. Il faut dire que l'espoir était grand ici en Guinée. Est-ce qu'il renvoie le jeune Malik porter la couleur du Sud? Ben non. Il a fait le choix de porter la couleur d'une autre sélection, malheureusement. Et donc c'est une pépite qui échappe entre les doigts des dirigeants du Sili de Guinée. Voilà, maintenant il faut tenir cette page-là et se concentrer à ceux-là qui sont présents, qui seront là pour mouiller le maillot les 12 et 15 contre l'Éthiopie, et après voir s'il y a d'autres joueurs qui pourront donc dire oui à la sélection guinéenne, parce que il y a une floraison de joueurs guinéens évoluant à l'étranger. Et voilà, mais il faut d'abord musiciens qui sont là, espérant que le Chili prenne 6 points sur ces deux matchs à venir.
Et ça doit se faire si Ciro Guirassy se réveille. Que ce soit le Ciro Guirassy du Borussia Dortmund, alors lui, il a des statistiques incroyables depuis qu'il a rejoint le club de la Roue.
Ah oui, c'est ça le problème, le paradoxe avec Ciro Guirassy. Un club, il brille, hein, voilà, lorsqu'il est à Stuttgart, les stats, on les connaît. Là, avec tout le monde, début de saison, parfait pour le Guinéen. Mais une fois en sélection, ça cale, ça bloque. Alors, c'est quoi le problème? Jusque-là, on n'a pas retrouvé la solution, la clé qu'il faut pour que Guirassy puisse briller. Une fois, on a écouté, lorsqu'il était avec Abadjara, il disait qu'il n'a pas la même disposition, il n'a pas la même disposition comme il est avec Stuttgart, voilà, en Allemagne. Et donc, du coup, ça ne lui permet pas vraiment de se mettre en évidence. Maintenant, on a un nouveau sélectionneur qui est Michel Duchuré. Est-ce que Duchuré trouvera la recette qu'il faut pour faire briller Ciro Guirassy? On aura la réponse très bientôt. Mais en tout cas, le Guinéen en Europe, il est pour des mille feux. Mais avec le Chili, c'est compliqué. C'est Bayo, Mohamed Bayo, qui lui brille plutôt avec le Chili, mais moins avec son club à Lille. Parce qu'il ne joue même pas, hein, presque, il joue des bouts de match avec Lille. Mais une fois en sélection, ben voilà, il s'éclate, il explose. Et donc voilà, on espère que Duchuré trouvera les clés pour que Guirassy puisse vraiment être mis dans les bonnes dispositions. Et pourquoi pas porter le Chili, parce que là, il a quand même l'étoffe pour, il a la capacité pour faire briller cette équipe de la Guinée, Guirassy à lui tout seul.
Et ce sera encore en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si elle a porté bonheur la dernière fois au Chili national. J'aurais préféré qu'il vienne jouer chez nous, mais visiblement, pour se rapprocher des supporters, qu'est-ce qu'on ne ferait pas du côté de la Guinée?
Ah oui, hein, le Maroc est une terre bénite pour le Chili de Guinée. On s'en est rendu compte, hein, tout dernièrement, parce que les deux matchs disputés en Côte d'Ivoire, voilà, ont été des échecs. Tout simplement, voilà, deux matchs, deux défaites. À Yamoussoukro, bien évidemment. Mais là, on change un peu de cap, là, parce qu'on jouera à Abidjan. Est-ce que Ebimpe portera chance au Chili de Guinée? Pour l'instant, la question reste posée, mais en tout cas, ce qui reste clair, c'est que le Maroc avait permis, en tout cas, au Chili de faire de belles performances. Maintenant, les décideurs ont décidé autrement, c'est-à-dire quitter le Maroc pour jouer en Côte d'Ivoire. Espérons que voilà, ce soit maintenant la bonne cette fois-ci, parce que, comme je l'ai dit, hein, deux journées, zéro point au compteur, ça craint pour le Chili. Il va falloir donc se réveiller tout de suite à Abidjan, à Ebimpe, pour en tout cas espérer se qualifier pour la prochaine CAN qui aura lieu au Maroc, bien évidemment.
Merci infiniment, Chérif Allure, pour toutes ces explications. Nos salutations, nos amis du côté de la Guinée-Conakry. Ils auraient aimé avoir un club en Ligue des Champions, mais l'équipe de Milo les a un peu déçus, puisqu'elle aurait pu figurer dans la phase de groupe, comme il y a quelques années avec le Roya Conakry. Il est 11h39, c'est le même timing du côté de Tunis. Ahmed Adala, bonjour.
Cher ami, bonjour à tous les chers auditeurs et auditrices de Radio Mars.
Je sais qu'aujourd'hui tu feras ton devoir électoral, mais en attendant, il y a le sport qui prime. Et du côté du sport, il y a une double confrontation cette semaine avec les Comores. Elles pourraient rapprocher les Aigles de Carthage ou même les qualifier pour la CAN, puisque la Tunisie a quand même fait le plein 6 points sur 6 lors des deux premiers matchs. La liste a été publiée par Fawzi Benzarti et son staff, et on retrouve un revenant, un certain Hannibal Majbri.
Effectivement, après un an d'absence, 13 mois d'absence, Hannibal Majbri va retrouver la sélection. Bon, c'était logique, le fait de ne pas le convoquer. Parfois, c'était son choix. Parfois, c'était le choix, un choix tactique, technique, vu que le joueur ne jouait pas. Il vient tout juste de retrouver un club. Burnley, il enchaîne les matchs, les belles et les bonnes prestations. Et son retour est plus que logique. Et c'était un retour attendu. On va voir comment ça va être un retour de Hannibal, qui a, disons, un peu plus d'expérience, qui est beaucoup plus sobre, plus calme dans son style de jeu, dans son entourage, dans tout. Même si il a toujours ce même problème des cartons, il prend des cartons gratuitement, mais tout le monde veut le revoir avec le maillot de l'équipe nationale.
Il y a quand même plusieurs absences. Achouri, Taïef, Ben Slimane, ils sont nombreux à ne pas figurer sur cette liste de Benzarti. Hein.
Ben Slimane vient tout juste de changer de club, il jouait pas, là il débarque à Norwich City, il était également en Championship, mais il a changé de club pour avoir plus de temps de jeu. Il enchaîne lui aussi les matchs, il était blessé lors du dernier stage, il pouvait pas faire partie du stage. Je ne sais pas quelle est sa situation, est-ce qu'ils l'ont appelé ou non. Il y a Idriss Limizoun d'Oxford qui enchaîne aussi les matchs, mais qui malheureusement pour lui, il évolue dans un poste là où il y a beaucoup de joueurs en milieu de terrain, donc il était sur la liste élargie, mais il n'a pas été retenu. Elias Achouri, le joueur de Copenhague, il a boudé la sélection, il a refusé la sélection le stage précédent, avant ce stage-là, et on n'a pas vraiment une idée sur ce qui se passe entre lui et le sélectionneur national et le staff technique, même si dans les coulisses on dit qu'il n'est pas vraiment très content par rapport à son positionnement, son utilisation, sa gestion, mais même si j'avais posé cette question-là lors de la conférence de Fosse et Bazzati, mais les adjoints, ils ont nié catégoriquement cette information. Après, il y a également, vous avez cité Ben Slimane, Achouri et qui d'autre?
Alors justement, le Taïf.
Ah, le Taïf, voilà.
Le Taïf et l'Abidi. Bon, plus Hajj Mahmoud.
L'Abidi. Oui. Il y a le Taïf, l'entraîneur, le sélectionneur l'a expliqué lors de la conférence de presse. Vous connaissez déjà au Maroc Fawzi Benzarti, il est très transparent, il est honnête. Donc il a expliqué que voilà, le Taïf a été dans un jour sans peut-être, où il était en méforme, il n'a pas donné satisfaction par rapport à ses performances lors du match contre le Madagascar. D'ailleurs, il n'a pas joué lors du deuxième match contre la Gambie. Donc, il n'est pas là. Et on nous a expliqué que la performance du club au club peut-être étincelante, mais pour rester en sélection, vous devez aussi montrer que vous êtes performant en sélection. Il y a un absent de dernière minute, disons. Il y a Elias Saad, on vient tout juste d'avoir la confirmation qu'il y a une rupture au niveau du ligament de la cheville. Il s'est blessé hier à la 90e minute, c'est comme Carvajal, aux dernières secondes du match. Donc le verdict est tombé, c'est une rupture partielle au niveau des ligaments de la cheville. Donc il va observer une absence qui va durer entre 6 et 8 semaines et donc il sera forfait, on ne sait pas qui va le remplacer. Mais il y a aussi un retour que tout le monde en parle, c'est Wajdi Kishlida, le latéral droit de la sélection. Il était à Tromotis en Grèce, il n'a pas joué depuis le mois de mars. 5 mois sans jouer. Il était sur le point de signer à l'Étoile du Sahel, mais il a préféré s'engager avec un club au Qatar, Al Gharafa, même si il a signé Al Gharafa, là où il y a le mercato au Qatar, il est ouvert toute la saison.
Il est encore ouvert, oui, tout à fait.
Oui, mais il peut pas jouer en championnat, il peut jouer en coupe du Qatar et il peut jouer en Ligue des Champions d'Asie. Il a joué entre 70 et 90 minutes en tout, mais là il est en sélection parce que il va remplacer un absent, Yann Valéry qui s'est excusé, il attend un bébé, donc l'équipe le staff technique a choisi de convoquer Wajdi Kishlida.
Alors je rappelle également le rappel de Ayman Dahmen, de Ala Al Gharam, qui n'était pas dans la dernière liste, et de Roussam Tqa. Donc, c'est une liste complètement Ayman changée.
Dahmen, non, Ayman Dahmen, il n'est pas présent. C'est Sabri Ben Hassan, le gardien de club sportif Sfaxien, qui a été convoqué. Ayman Dahmen, il était blessé. Il revient tout juste d'une blessure qui a pris 6 semaines. Il était sur le banc lors du dernier match du club sportif Sfaxien. Il n'a pas encore joué. Mais c'est Sabri Ben Hassan qui honore sa première sélection. Le gardien, le portier du club sportif Sfaxien. Donc, il est là pour compléter les trois gardiens. Les trois gardiens, c'est Amen Allah Mimich, son remplaçant à l'Espérance sportive de Tunis, Bachir Ben Saïd et Sabri Ben Hassan.
Et puis, on va aussi se focaliser sur le tirage au sort des compétitions continentales, puisque la Tunisie a quand même de fortes chances d'avoir une belle participation, notamment en Ligue des Champions avec l'Espérance de Tunis. Quelles sont les spéculations? Quelles sont les équipes qu'on voudrait avoir du côté de l'Espérance? Quelles sont les équipes qu'on voudrait éviter, puisque l'Espérance se trouve dans le chapeau numéro 1?
On peut facilement tomber avec le Phare et le Rajet dans la même poule avec un autre club algérien. Donc c'est un peu compliqué. C'est comment le dire, mais c'est une des plus difficiles Ligue des Champions depuis une quinzaine, voire plus d'années. Tous les clubs ont presque un très bon niveau, à l'exception peut-être de quelques autres clubs. Il y a Orlando Pirates, il faut pas oublier. Il y a Simba, il y a le CRB, il y a le Raja, il y a le Phare. On n'est pas les Tunisiens, le club tunisien pour la Ligue des Champions, il va éviter Mamelodi Sundowns, Mazembe et Ahli, mais ça va être très difficile. Après, si on veut faire des choix, ça sera bien évidemment des clubs de l'Afrique du Nord, non seulement parce que généralement, excuse-moi, mais c'est la vérité statistiquement parlant, la Tunisie, les clubs tunisiens dominent les clubs de l'Afrique du Nord, avec quelques exceptions bien sûr, mais aussi pour éviter les longs trajets, les longs déplacements. Imagine un match contre un club en Afrique du Sud, Orlando Pirates par exemple, ou un match contre Simba et dans la même poule, ça sera vraiment très difficile. Pour la Coupe CAF, c'est un peu une découverte, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ne sont pas habitués à disputer cette compétition. Stellenbosch de l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de clubs qu'on ne connaît pas, donc on va s'attendre à un tirage qui sera peut-être flou pour le club sportif Sfaxien.
Et puis je rappelle que les dates des qualifications des CAN U17 et U20, c'est dans la zone UNAF, ont été dévoilées. La CAN U17, les éliminatoires ont lieu au Maroc, et les U20, c'est en Égypte, et la Tunisie prendra part. J'espère que elle jouera un rôle important, déterminant. Je ne sais pas si elle pourra se qualifier, mais elle jouera un rôle déterminant dans ses qualifications à 5.
On a une très belle équipe U20 avec des joueurs qui évoluent dans leur club, avec l'équipe A de leur club. On a pas moins de 7 à 8 joueurs qui évoluent à l'étranger, et on a des très bons éléments. On a un entraîneur qui a maintenant de l'expérience, Slim Ben Achour, ancien adjoint de Jalal Qadri. J'ouvre aussi une parenthèse par rapport au Champ 2024. Fawzi Bazart a expliqué que il est pour la participation au Champ 2024, ça serait bénéfique, mais il faut trouver une solution avec le club, parce qu'on a une règle en Tunisie qui dit que si un club a plus que 3 joueurs convoqués en équipe nationale, il peut facilement refuser de disputer les matchs de championnat.
Ça me rappelle un pays qui est le mien. Nous, c'est à plus de 2, ça y est, on demande le report du match, quelles que soient les circonstances. Merci beaucoup, Ahmed Adala, pour toutes ces explications. On se retrouve le week-end prochain, Inch'Allah, pour pouvoir parler de ces deux matchs de qualification contre la sélection djiboutienne. Et ça se déroulera, bien évidemment, la sélection des Comores, pardon. Et ça se déroulera en Côte d'Ivoire hein, pour le match retour, c'est ça? Ça sera en Côte d'Ivoire, le match retour. Alors, il est 11h48, on va faire notre dernier voyage. Il aura lieu au Cameroun. On va parler un peu, on a oublié. C'était un téléfeuilleton, c'était une télénovela. C'était ce bras de fer entre le ministère et la FECAFOOT, entre Eto'o et le ministre, avec au milieu les joueurs et le staff technique. C'était une querelle d'égo. Visiblement, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. On a cherché un compromis. Et c'est sur ce compromis, et c'est avec ce compromis que se déroulera la double confrontation face au Kenya. David Eyengue, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Max. Bonjour à toutes les populations marocaines qui écoutent la radio. L'actualité au Cameroun, l'actualité sportive au Cameroun est marquée par le consensus trouvé entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et le président de la FECAFOOT. Un staff de 18 personnes a été constitué le 1er octobre dernier, et au bas de la note, on aperçoit les signatures de Narcisse Moulay-Kombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, et de Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Un staff constitué au lendemain de la finale de la Coupe du Cameroun, où on a vu les deux hommes côte à côte et qui ont consenti à laisser Marc Birsch travailler comme patron du staff. Eh bien, Marc Birsch, donc le sélectionneur belge du Cameroun, a donné une conférence de presse ce samedi 5 octobre 2024, au cours de laquelle il a communiqué des noms des 24 joueurs qui sont convoqués pour la double confrontation Cameroun-Kenya, comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Une liste de 24 joueurs où on peut apercevoir 3 nouvelles arrivées: James Djungwe, défenseur, Martin Nzié Atemengue, milieu de terrain, et Patrick Soko, attaquant. Une liste de 24 joueurs qui suscite beaucoup de polémiques sur la toile. Les sélections de certains joueurs au détriment d'autres. On a
Par exemple, on se pose toujours la question sur la sélection de Simon Mossola, troisième gardien à Saint-Éloi-Loupopo en RDC, au détriment de Fabrice Ondoa, titulaire dans un club qui joue la Copa, la Coupe de la Ligue Europe, c'est-à-dire la Liga Europa. L'actualité autour des Lions Indomptables est aussi marquée au Cameroun par la suspension de Samuel Eto'o par la FIFA. Le président Lafeka Fouta est coupé de 6 mois de suspension depuis le 29 septembre dernier. Suspension qui stipule que Samuel Eto'o ne sera pas présent pendant les matchs des Lions Indomptables, de toutes catégories confondues, pendant 6 mois, pour avoir enfin aux articles 13 et 14 du code disciplinaire de la FIFA. Le président de la FECAFOOT s'indignait alors à Bogota lors de la Coupe du Monde 2024 des U20 féminins en Colombie d'un arbitrage d'une Italienne en faveur du Brésil contre la sélection U20 féminine du Cameroun. L'icône du football africain avait pensé que l'Afrique est toujours défavorisée dans les compétitions internationales au détriment de l'Europe et de l'Amérique du Sud. L'actualité, enfin, c'est aussi la victoire finale du Belge Van Dijk Wesley au 24e Grand Prix Chantal Biya, cette course cycliste où on n'a pas vu une équipe marocaine présente, mais une course cycliste qui avait vu, n'est-ce pas, le maillot jaune sur les épaules de Yacine Hamza, l'Algérien, dès la première étape. Maillot jaune qu'il avait perdu lors de la deuxième étape pour excès de zèle, lui qui avait déclaré que le Cameroun ne gagnera rien tant que l'Algérie est présente. Il n'avait pas vu venir les Belges et pour ce manque de fair play et un excès de zèle, il a perdu sa tunique et le tour qu'il avait gagné pourtant en 2023. Il va se contenter du maillot blanc à pois rouge du meilleur grimpeur, pendant que ses compatriotes Islam Mansouri et Amani Hamza sont respectivement rentrés en vert et en blanc. Mais le maillot jaune est parti en Belgique, porté par Van Dijk Wesley.
Alors, il s'agissait de cyclisme. Merci beaucoup, mon cher ami. On en parlera la semaine prochaine, forcément, puisqu'il y aura les éliminatoires de la CAN et les Lions Indomptables du Cameroun tiendront une place très importante dans notre émission. Une émission qui touche d'ailleurs à sa fin et qui a été assez riche en enseignements, notamment avec cette première escale au Sénégal, où on a expliqué comment Aliou Cissé a été évincé de son poste de sélectionneur après 9 ans de bons et loyaux services. Nous avons été à Dakar, à Libreville, nous avons été à Abidjan, à Bamako, à Kinshasa, à Tunis, à Yaoundé et évidemment du côté de Conakry. Ça nous a fait 8 voyages qui nous ont permis d'apprendre beaucoup de choses et d'être un peu moins bête. On se quitte sur une dernière chanson en vous donnant rendez-vous le week-end prochain, plus exactement dimanche prochain. Merci de votre fidélité. Faites-nous confiance, comme nous le demande Sidiki Diabaté. Merci Bruno qui était à la réalisation. À dimanche prochain.